la première.
Par oui dire ?
Oui.
Oui, oui.
Pascal Tison.
Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, tutta vivere per niente.
Dis-moi.
C'est un art.
Par oui dire. Par oui dire. Pensez les mots qui écrasent. Voilà ce qui anime le groupe de désorceler la finance. Et ce sont bien des désorceleurs. Ce collectif dit sauvage nous propose d'envisager un glossaire sorcier pour redonner de la puissance à certains mots dont les logiques financières nous dépossèdent de plus en plus. Dans ce premier épisode, deux thèmes, celui du logement, celui de la vieillesse, sont au cœur des réflexions du laboratoire sauvage. Qu'est-ce que la promotion immobilière fait endurer à la ville aujourd'hui et de plus en plus. Il s'agit de nommer les enjeux du logement avec ceux qui se battent contre la précarisation de leur vie. Du côté de la vieillesse, la silver economy entend bien profiter du gisement que constituent les personnes âgées, bien malgré elles. Petit coup d'œil plein de sagesse sur les conditions de vie dans les homes, c'est désorceler la finance, le logement et la vieillesse.
Désorceler
la
finance.
Désorceler
la
finance.
Désorceler la finance présente
une série documentaire sur le grand pouvoir des mots, le logement.
Dans chaque chapitre de ce documentaire, on va commencer par une entreprise qui est un acteur important sur le sujet dont on va traiter. Et donc là, pour le chapitre sur le logement, on va commencer par un promoteur immobilier. Et on va regarder comment il pense ça, et avec quoi est-ce qu'il est motivé à produire du logement. Ça veut dire quoi, produire du logement, tu vois, qu'est-ce qui est cherché dans cette production de logement ? C'est jamais qu'un produit comme un autre, ils pourraient faire des yaourts, bah eux, ils font des logements, quoi. On va partir de ça, on va parler de ce que ça a comme effet sur la ville et sur ses habitants et habitantes d'avoir des grosses entreprises privées qui produisent du logement. Ça fait que le logement est plus cher, que c'est plus compliqué de se loger pour toute une partie de la population et qu'il y a des gens qui se font virer de certains quartiers ou de leurs maisons. Après, l'idée, c'est de passer à travers les mots, de prendre les mots et des promoteurs immobiliers, du pouvoir, etc., mais aussi les mots dont on a besoin pour se sortir de cette situation et essayer de trouver des mots qui nous redonnent de la puissance aussi.
Est-ce que le Bruxellois n'est pas un peu frileux au changement aussi ?
L'élément structurel, c'est qu'on est entré dans une ère de city marketing. Les villes se font concurrence. Il faut attirer. Il faut engranger les sources de revenus. Si on fait comme toutes les entreprises, comme toutes les villes, je considère sûrement la ville
comme une entreprise.
Ça, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais Bruxelles est comme les autres. Elle fait comme les autres.
Pour faire la ville de demain, il faut oser.
faut presque se jeter dans le noir et s'imaginer ce que sera une ville dans 30 ans.
Alors,
le plus grand ennemi de la ville du futur est l'habitant d'aujourd'hui.
Qu'est-ce qui fait qu'une ville va attirer des investisseurs ou pas ?
Nous rencontrons Sarah Delatte pour entendre son point de vue de géographe sur le discours des promoteurs.
Une ville qui va attirer des investisseurs, bah déjà, c'est une ville qui a un skyline, quoi. Et donc, fatalement, une ville qui n'a pas son skyline, c'est pas une ville du futur, quoi. Marnix, il parle pas de logement, il parle de tours, il parle bien de bâtiments, c'est ça qui fait le monsieur, en fait. Lui, qu'est-ce qu'on met dans le bâtiment, c'est un détail. C'est une histoire de conjoncture, quoi. Ce qui est structurel pour lui, c'est qu'il faut construire un gros bâtiment et qu'il faut acheter un foncier et le rentabiliser au max, quoi. C'est du bureau à une époque, c'est du logement à un autre. Maintenant, c'est mixte, hein, ils sont tous obligés de...
Pour faire la ville de demain, il faut presque se jeter dans le noir et s'imaginer ce que sera une ville dans 30 ans.
Marnix Gayle, c'est un des hommes les plus riches de Belgique et propriétaire d'immobile à 2/3. C'est le plus grand développeur immobilier belge coté en bourse. Leader du marché immobilier en Belgique, de référence internationale.
Toute grande ville au monde qui a du succès fait que par la gentrification, un nombre de personnes doivent en sortir. Et cela crée en fait une tension sociale terrible.
Un des trucs qui nous a frappé dans sa parole, c'est quand il dit il faut fermer les yeux. Il fermait vraiment les yeux, tu vois, et il n'y avait plus rien. La table rase, on part de rien, rien n'existe.
Ouais.
Donc dans leur vision, on a une vision dans le noir, mais sauf que cette ville, elle est pleine de gens, elle est pleine de vie, elle est pleine de personnes qui galèrent à trouver un logement. Enfin, il n'y a pas rien. Et quand la tour arrive, c'est comme si elle faisait comme ça.
Ouais.
Et démerdez-vous avec.
Après, c'est cette espèce de paradoxe quand même de la part de la promotion immobilière. C'est qu'à la fois, elle est dans des villes qui sont attractives pour elle parce que ce sont des villes qui sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire qui ont une certaine histoire, certaines activités économiques, certaines lois, certaines réglementations, dont certaines déplaisent à M. Marnix Gayle apparemment. Et donc, il y a à la fois une ville qui est attractive pour ce qu'elle est, mais de l'autre côté, une ville, c'est fini. Et donc, tout l'enjeu de la promotion immobilière, c'est constamment de créer du nouveau sol, ce qui n'est pas possible, en fait. On ne peut pas créer du nouveau sol. Donc, tout l'enjeu de la promotion immobilière, c'est constamment de recréer des quartiers comme des quartiers de désirabilité, des quartiers dans lesquels on va pouvoir acheter, construire autre chose, changer. Et vraiment, c'est une rhétorique chez les promoteurs immobiliers, c'est vraiment créer du nouveau sol.
En fait, nous sommes 10 ans en arrière. Et ces 10 ans en arrière, il faut les rattraper d'une façon proactive.
Accaparement. Arriver quelque part. Considérer que c'est un désert ou que c'est sous-développé. Dire « c'est à moi ». Faire payer toute tentative d'usage de la terre, de la chose ou de l'être qui fait l'objet de l'accaparement. Faire usage des moyens nécessaires, en ce inclus la force publique, pour dissuader toute personne de contester cet état de fait. Processus parfaitement bien illustré par le jeu du Monopoly. Dérivé vers capital obscène, occupation.
Bienvenue dans ce Maguimo un peu particulier, pour nous parler de Bruxelles,
entre autres, mais pour nous parler surtout des densifications de la ville. Comment faut-il densifier la ville, et plus particulièrement Bruxelles? À mes côtés, Philippe Claus, vous êtes donc bourgmestre de la ville de Bruxelles, bourgmestre PS. Gavrilo et Aya, vous êtes directeur du développement chez AG Real Estate, bonjour. Tom Sanders, directeur stratégie territoriale de Perspective Brussels. Bonjour. Hans Persoons, bonjour. Vous êtes échevine de l'urbanisme à la ville de Bruxelles, SPA. Marnix Gall, le CIO d'Immobel, on vous avait déjà vu sur le plateau du Maguimo.
Ces gens, ils ont un projet pour, ils ont un projet pour la ville. Et ce côté visionnaire, il est vraiment très présent dans tout ce que racontent ces promoteurs.
Il ne faut pas d'abord essayer justement de réconcilier le citoyen, le bruxellois en l'occurrence, avec les tours. On a l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de tours.
Non, mais ils aiment bien.
Je vais juste vous citer quelques projets. Peut-être que vous voyez où ils sont. Il y a Brouckère, par exemple, où il y a le cinéma. Bon, ça, c'est typiquement un gros îlot que ces promoteurs ont acquis. Et ils vont monter, bien sûr, le niveau des étages. À la Monnaie, le centre Monnaie, il y a aussi Multi, qui est juste à côté. Il y a aussi le maintenant très connu Key West, qui est sur le canal et qui vient de changer de nom. C'est Arrive, c'est ça ? Ouais, Arrive. Il y a le projet Ernest, qui est déjà terminé, qui est lui à XL. Donc c'est sur l'ancien bâtiment Solvay à XL. Donc voilà, c'est des très gros projets.
Le plus grand ennemi de la ville du futur est l'habitant d'aujourd'hui. Parce que si vous êtes locataire dans un magnifique petit bâtiment à 4 étages, vous n'avez pas la moindre envie que le plus beau bâtiment au monde, de 35 ou de 40 ou 70 étages, avec un grand lac autour, y vienne.
Ce projet qui sort de nulle part n'a de sens que dans une ville qui tire sa valeur, non pas de ce que fait la promotion immobilière uniquement, contrairement à ce qu'ils aiment raconter, mais de ce que tout le monde construit dans la ville. Une ville, c'est constitué de réseaux, c'est constitué d'activités, qu'ils soient marchandes ou non, c'est constitué d'un environnement, d'un visuel, de tout ça, c'est pas les promoteurs qui le font, évidemment, mais ils en bénéficient, et toute la question de ce nouveau sol, ça va être effectivement de, à la fois, faire croire qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose avant pour faire accepter un nouveau projet, et aussi quand même partir de ce qu'il y a aux alentours pour créer un récit, qui va rendre ce nouveau projet désirable.
Profiteur. 1. Celui qui tire profit d'un patrimoine de plus de 3 biens immobiliers. 2. Se dit d'un promoteur qui profite de ce que les habitantes et habitants ont créé de vivant dans leur quartier ou dans leur ville pour le convertir en désirabilité pour les investisseurs. Ceux-ci chercheront l'augmentation des prix des loyers et par conséquent le remplacement de ces habitants et habitantes. 3. Familier, à valeur de brique. Dérivé vers profiterole.
On va d'abord vous proposer une très courte interview qu'on a réalisée il y a quelques jours à l'occasion de la remise des prix bâtiments exemplaires, Be Exemplary, où le secrétaire d'État à l'urbanisme Pascal Smet était présent et où lui avons donné la parole en lui demandant d'introduire ce débat parce qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui.
Encore une fois, pour moi, les tours, on n'est ni Aix-en-Provence, on n'est ni New York. Il faut trouver un propre gueule, bien pensé, avec une manière bien intégrée, pensée. Et pour ce dialogue-là, je vais intégrer toutes les architectes urbanistes bruxelloises qui habitent à Bruxelles ou qui sont actifs à Bruxelles pour, ensemble avec nous, changer cette culture architecturale. Je pense qu'on doit oser plus, on doit avoir plus d'ambition et ça va demander un changement de culture qu'on ne va pas imposer, mais qu'on va développer ensemble avec nous, changer cette culture architecturale. Tous ensemble, un changement de culture, changer cette culture architecturale qu'on va pas imposer, mais qu'on va développer tous ensemble. français, mais qu'on va développer.
Quand j'ai fait l'objet j'étais devant le juge de paix, etc., ce qu'on m'a dit, c'est que dans la Constitution, je crois, il y a le droit à la propriété, et que ça, c'est inaliénable. Le problème, c'est que dans ce texte, il n'y a pas le droit au logement, qui devrait figurer même avant le droit de la propriété. Donc le droit d'avoir un toit au-dessus de sa tête, d'avoir une couverture, voilà. On n'en parle pas dans une procédure, quand tu es en conflit avec un juge de paix, devant un juge de paix avec ton propriétaire, on n'en parle pas, ça. Enfin, le droit de propriété passe avant le droit du logement.
C'est ça.
Mars 2022, journée européenne d'action pour le droit au logement. Housing Action Day.
Des logements insalubres, des logements trop petits, ce sont des logements qui mettent en danger les gens du point de vue de leur santé physique et mentale. C'est une situation dramatique qui est la conséquence directe du fait que le logement est considéré comme un produit d'investissement, comme un bien qui s'échange sur un marché. Ce marché, il nous met tous en compétition les uns contre les autres. Trop souvent, on se retrouve tout seul face à un propriétaire ou face à une banque ou face à une agence immobilière. Et on a tendance à penser que le logement est une question individuelle, mais c'est une question collective. Et parce que c'est une question collective, c'est une question politique, c'est une question de choix politique. Les pouvoirs publics font le choix de ne pas construire assez de logements sociaux, ils font le choix de ne pas baisser les loyers, ils font le choix de transformer nos centres-villes en parcs d'attractions touristiques. Et nous pensons que le logement, c'est un droit, et que chacun et chacune d'entre nous devrait avoir accès à un logement digne, et que c'est une nécessité. Les droits, ça s'arrache. Et au même titre que la santé, nous pouvons faire du logement un droit. Mais pour ça, il faut qu'on lutte. Et il se passe plein de trucs en ce moment pour le logement. Nous pouvons repolitiser tout ça et lutter ensemble pour le rendre effectif, ce droit. Alors, non aux expulsions, baissons les loyers et réquisitions partout.
On se retrouve à la permanence du front anti-expulsion. Automne 2021.
Quand on a discuté ce matin, à partir de la petite brochure du Front anti-expulsion, faire face aux expulsions légales d'un logement, on est retombé sur ce mot, signification de déguerpir, et on s'est dit c'est fou. On dirait presque de l'argot, comme ça, c'est un mot du langage courant. Enfin, retrouver ça dans une décision de justice.
Moi, déguerpir, c'est un mot qu'on utilise pour des pigeons, pour des gamins, pour... Enfin, voilà, allez déguerpisser, quoi. Allez oust, quoi. Voilà, vous gênez, quoi. Voilà, j'ai l'impression de gêner, quoi, avec ce mot.
Moi, j'ai déjà eu un juge où j'ai eu une signification à déguerpir.
Moi aussi.
Et du coup, ouais, j'étais étonné que ça soit utilisé dans la loi, ce mot.
Ah, oui, oui.
Avec tous les moyens disponibles, avec la force de l'ordre, la force publique.
Il y avait un mot, moi, que j'avais noté tout à l'heure, qu'on aime bien, c'est le mot « refuge ». Pour parler de notre habitat ou de notre chez-soi, ou je sais pas, je voulais le poser là. Si ça vous inspire, ce mot « refuge », qu'est-ce que ça vous évoque et qu'est-ce que ça devrait être, quoi ?
Le mot « refuge », pour moi, il me fait déjà peut-être un peu peur. C'est un mot comme si je suis déjà reculée, je suis déjà emprisonnée, quoi. Voilà.
« Refuge », me fait penser à quelqu'un de comme qui serait une victime, par exemple.
Moi, j'ai remarqué qu'en psychologie, en psychiatrie, on utilise beaucoup le mot refuge pour les gens dans le sens un refuge mental, et c'est un endroit où on se sent bien, on se sent sécurité. Et même les animaux ont des refuges, hein, la tanière d'un loup, celle d'un ours. Là où l'ours, mais la femelle ours met ses petits au monde, c'est un refuge. C'est cette image-là que moi j'aime bien, du mot refuge. C'est un endroit où on est à l'abri. Et quand on se sent bien, après on recommence à explorer un peu le monde et on essaye de reprendre contact avec nos semblables, quoi. Et on a tous un moment besoin de se retirer un peu, de se dire, allez, on souffle un peu, quoi. Et on n'a plus envie de parler, on n'a plus envie d'écouter, on a juste envie d'être seul avec soi. Et c'est un refuge pour moi.
Pouvez-vous poser une question aussi, donc par rapport à ce travail sur les mots? Là, il y a le terme SDF. C'est un mot qui vous tombe dessus. C'est une espèce de label. Et c'est vraiment le pire truc. Et je crois qu'il y a des gens qui ne dorment pas la nuit parce qu'il y a le mot SDF qui les poursuit.
Oui, c'est vrai que ce mot est très, très pesant parce que c'est encore même plus bas que le premier des échelons. Oui, SDF, c'est très pesant. Ça veut dire que c'est la fin de ta vie, quoi. C'est fini. Après ça, il n'y aura plus rien. Mais ce n'est pas vrai, au fait. Moi, je me rends compte maintenant, c'est quoi SDF? Je vous dis, je tombe de haut, donc je ne savais pas ce qui... Et ça arrive si vite que... Voilà, il faut savoir, aller chercher les bonnes parties de soi-même à l'intérieur. Et puis c'est reparti, quoi. La vie ne s'arrête pas, hein, même.
Alors, comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, SDF qui est sans domicile fixe?
Oui.
Quel mot on pourrait, tu vois, de SDF?
Oui.
Il faudrait mettre d'autres mots.
Ah, d'autres remplacés?
Oui, oui.
Bah, écoutez...
Et qui est votre condition, mais qui, justement, qui n'est pas stigmatisant et qui donne de la force.
J'avais pensé au mot nomade, au fait.
Directement lié à ça, au syndicat des immenses, on a travaillé sur un thésaurus de l'immensité, donc une adaptation des mots aux situations de l'immensité. Et justement, depuis pas mal de temps maintenant, et c'est un mot qui commence à être connu, à s'étendre, en tout cas dans le milieu associatif. On ne parle plus de sans-abri ni de SDF, on parle de sans-chez-soi, qui englobe tous les gens qui sont dans des situations diverses mais qui ne sont pas chez eux. Donc ce sont les sans-chez-soi, et on ne parle plus de sans-abrisme mais de sans-chez-soirisme. Un squatteur, il a un toit sur la tête mais il n'est pas chez lui, il ne se sent pas chez lui souvent non plus.
Oui, moi, ça m'a frappé les prises de parole sur ce mot, parce que je ne l'avais pas conçu comme ça, et je comprends ce que vous dites, le fait que le monde soit tellement agressant. Mais j'avais juste envie de... Je viens de réaliser un truc, parce que Hicham et puis et Karim et d'autres ont parlé de nomadisme. Et immobilier, c'est exactement l'inverse, quoi. C'est ce truc immobile. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les gens qui ont de l'argent... ont beaucoup de capital, en fait, quand ils en ont vraiment trop, ils essayent de le fixer quelque part, quoi. Et un des endroits où ils fixent leur capital, c'est dans l'immobilier. Et vraiment, matériellement, les bâtiments, les tours et tout qu'il y a dans les villes, c'est de l'argent en trop qui ne sait pas où aller et qui va là et qui se met là et qui vient occuper les villes, en fait. Surtout que, du point de vue capitaliste, il y a ce terme qui est utilisé, celui de valeur refuge. Et donc, une valeur refuge pour le capital, c'est un endroit où le capital ne sera pas abîmé. Par exemple, le logement, l'immobilier, c'est une valeur refuge.
Interférence. Coupure dans le discours courant du brouillardage médiatique, moment de silence, de répit, où peut se redévelopper l'accès à la pensée propre et à la fabrication collective de sens. Les actions qualifiées d'interférences sorcières provoquent des ruptures dans le continuum bourdonnant de la pensée unique qui nous envoûte. La chape de plomb devient trouée par les bulles d'air neuf produits et a le pouvoir de réveiller les participants, eux, à ses actions. D'action en action, les moments de silence, de répit et les bulles d'air neuf se multiplient et communiquent jusqu'à former un réseau, semblable à des racines souterraines prêtes à faire craquer l'ancien monde. Le but d'une interférence sorcière est de faire entendre la musique masquée par la voix des maîtres, de faire entendre le silence auquel nous sommes réduits, et de le repeupler par des chants, par nos voix. dérivé vert, disruption, saxifrage, brouillage.
Sur l'îlot, Diane, suivez-nous, restez là. Vous pouvez. Nous, on y va.
Ça y est, c'est bon. T'es au max. On est ici devant le syndicat national des propriétaires et des copropriétaires. Le SNPC, c'est le syndicat qui fait tout ce qu'il peut pour augmenter les loyers. Qui se sont battus pendant toute la période de pandémie pour éviter et arrêter le moratoire contre les expulsions domiciliaires.
Merci.
Imposer une indexation la plus élevée possible, et c'est comme ça qu'on se retrouve à Bruxelles avec 6% d'indexation des loyers. Du capitalisme, des accumulateurs, des profiteurs, des grands propriétaires et de leurs syndicats exercent une emprise et une contrainte sur nous. Mais ce pouvoir des mots, nous pouvons nous en emparer en nous réappropriant, en les détournant, en les conjurant, en inventant ceux qui nous manquent et en les partageant. Cela constitue un glossaire sorcier dont les définitions agissent comme des incantations. Nous avons entendu les briques gémir et nous allons les faire crier. Mais pour activer ce glossaire et engager un processus de désenvoûtement, nous allons d'abord faire peser sur cette façade et ces bureaux le poids de nos chaînes et de nos noms. Le capital, ce qui ne l'est pas. Capital, ce qui ne l'est pas. Immobiliérisme, culte de la brique morte. La remise en demeure, une obligation de reloger.
L'obligation de reloger.
Résumé de la situation dans laquelle on est arrivé, le logement est devenu un refuge pour le capital, mais plus pour l'humain.
Comment ça se fait qu'on arrive à devoir dire qu'on ait besoin des refuges ?
Sans capacité, par l'usage de la sorcellerie, se désembourber de la marée noire capitaliste. Refaire peau neuve et se réapproprier ce qui nous a été confisqué. Corps, esprit, affect, émotion, pensée, action. Retrouver ses capacités magiques, sa faculté de voir, de percevoir, de se relationner au contexte, à l'environnement, à soi, aux autres humains et non humains. Se relier, se redonner collectivement de la puissance, retrouver un pouvoir d'agir, un pouvoir de faire. Dériver vers, brouillage, égrégore, emprise.
Des
sorceler
la
finance.
Des
sorceler
la
finance.
Des sorceler la finance présente
la vieillesse.
«
Bonjour, merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce Pour Info. Aujourd'hui, on va parler du pari de la silver economy. On le sait, nous vivons de plus en plus vieux. En Belgique, les 65 ans et plus vont bientôt représenter un quart de la population. Sommes-nous prêts à faire face à cette hausse des papy boomers? Quels sont leurs besoins et qui se cache derrière cette appellation? Nous verrons comment les entreprises surfent sur cette vague du vieillissement et la promesse que représente la silver economy en matière de business. Nous verrons enfin si l'on peut parler du marché juteux des seniors. On en parle avec nos invités, nos experts.
Il y a deux écoles. Il y a la silver economy qu'on voit sous un axe grand âge et toutes les problématiques liées à l'âge. Et puis, il y a la silver economy qui est un peu plus une vision marketing où là, on a une réponse à partir de 55 ans. En réponse en disant 18-54, personnes responsables des achats et personnes plus âgées qui sont généralement pas dans les chiffres, qui sont pas dans les cibles et qui là, en effet, peuvent être un fort potentiel.
Responsables des achats
18 à 55.
Comment est-ce qu'on les qualifie finalement, ces aînés? Est-ce qu'il y a plusieurs catégories? Qu'est-ce qui est repris en fait sous cette appellation?
Alors, on les a appelés d'abord seniors, en général. On les a mis silver parce que c'est plus moderne, plus sympa. Après, on peut les séquencer de différentes manières. Je pense qu'on a tous une manière de faire.
Les vieux, les seniors, les aînés. Les silvers, les têtes grises, les vioques, les croulants, les pépés et mémés. Les boomers, les irresponsables des achats. Les TGV, très grands vieux. Les anciens, les ancêtres, les doyens. Les gâteaux, les gâteux, les pensionnés, les retraités, les vénérables. Les aïeux, les nouveaux fossiles, les personnes âgées. Les séniles, les vieillards, les anciens. L'Antiquité, les vieux schnocks, les périmés, les sages.
Finalement, je dis, ben voilà, moi je dois être une vieille fille, quoi, en fait, c'est trop bien, je vais me mettre comme ça, parce que vraiment là, ça montre jusqu'à quel point la question de l'âge elle, se trouve en relation avec l'organisation et la division de travail dans nos sociétés. Donc, c'est-à-dire que ce soit pour la production ou pour la reproduction. Tout doit être nouveau, renouvelé, en permanence, même si on n'a pas besoin. C'est autant avec les personnes qu'avec les choses. Et donc, on va qualifier tout ce qui est vieux comme quelque chose qu'il faut jeter pour remplacer pour autre chose. Mais après, comment est-ce que trouver des mots pour valoriser ça? Mais c'est compliqué.
Nous rencontrons les membres de Diversity et du club des seniors de la commune de Forêt.
On va expliquer. Hein. Tu te souviens, j'en avais parlé il y a quelques semaines. J'avais parlé du fait qu'un collectif qui s'appelle Désorceler la Finance voulait venir animer un atelier d'écriture ici avec nous. Du coup, ici, on va faire un atelier glossaire. Vous voyez, c'est quoi un glossaire? En gros, c'est un peu des exercices comme on a l'habitude de faire. C'est des définitions. On va essayer de travailler ensemble sur des nouvelles définitions. Et voilà. Donc des définitions collectives, des définitions inventées, des définitions. Ah ben oui.
Donc on a un épisode sur la vieillesse et on vient chercher aussi quels sont les mots que vous entendez, qui vous agacent, qui vous empêchent, qui vous gênent ou que vous aimez bien. Et voilà, donc on va travailler sur ces mots-là. Et tout ça, c'est pour se redonner de la force, hein, toujours.
À quel âge est-ce qu'on peut dire qu'on est vieux? Si on se sent jeune, le nombre d'années n'a pas d'importance. En fait, je ne me sens pas vieux alors que j'ai l'âge.
Mais oui, on peut être vieux à 20 ans et on peut être jeune à 60 ans. Et voilà, donc ça dépend de...
L'âge, c'est juste un chiffre. Mais si on se sent bien dans son corps et dans sa tête, on est toujours jeune. Voilà, ça c'est pour moi.
Super, merci. Mon chose que je pense de l'âge, c'est que c'est une question culturelle, quoi. Mm-hmm. Qu'on apprend qu'on est vieux, on ne sert à rien, quoi. Et considéré comme une personne desséchable, c'est ça?
Jetable.
Et aimer, je trouve que la vie, c'est aimer pour avancer chaque jour dans l'année que tu as, quoi. Et gagner expérience dans l'âge. Être un peu heureuse de vivre, heureuse. et savoir vivre en train de chercher toujours le bonheur.
C'est chercher,
oui, c'est ça.
Vous avez fini ?
Ça a été très cool.
C'est comme d'habitude et on lit ? Enfin, ceux qui veulent, évidemment, s'il y en a qui n'ont pas envie de lire.
Bon, j'en ai deux. Seule, à son âge, gâteuse, elle n'est pas. L'autre, si elle pouvait arrêter les aiguilles, garder le contact enfant, famille, amis.
Et c'est quoi, du coup, les mots que tu avais choisis ?
Sage.
Moi, j'ai choisi vieux. Et je dis un vénérable valeureux, un irréprochable intrépide, un excentrique exemplaire.
Oh, c'est beau ça.
Universel et utile. Xénophile extrême.
C'est pas facile le X. Hein.
C'est pour ça qu'on l'a pas pris.
Oui, c'est ça.
Moi, je l'ai arrêté. Je l'ai pas pris. Moi, ça signifie.
Xénophile qui.
Xénophile qui aime le xénophile.
Je vais poser la question parce que. Mais t'es plus certain de.
Qui aime les étrangers, les gens différents.
Ah, j'ai l'air.
Le xénophobe.
Le xénophile.
Xénophile qui aime l'étranger.
Oui, ou les personnes différentes.
Fond de potion. Poison pour ensorceler nos présents et nos futurs. Recette facile. Émincez la solidarité intergénérationnelle. Faites réduire les régimes publics de retraite au maximum. Liez le tout à une sauce financière de multinationales avides de profit. Puis dégustez. Dérivez vers fond de la pension.
Les maisons de repos, etc., c'est pas quelque chose qui... existe depuis des centaines et centaines d'années, quoi. Ben, on peut remonter au Moyen-Âge, mais aussi à ces processus d'accumulation primitive du capital, et donc des conformations à l'État moderne, etc. Et à partir de là, les premières questions sociales qui vont se poser.
Nous sommes dans les bureaux du Grésea, avec Natalia, sociologue, et Sébastien, économiste.
La question de la vieillesse n'était pas posée comme telle, au moins que ce soit des personnes vieilles abandonnées. Mais il n'y avait pas autant cette séparation comme aujourd'hui, même si le capitalisme, il va commencer à instaurer des séparations très fortes hein, dans les familles, non pas selon l'âge, mais aussi selon les sexes. Et donc, avec la création de l'atelier, ben, les hommes, ça serait les travailleurs soit reproductifs et les femmes reproductives. Et ceux qui sont considérés comme les personnes non productives, on va créer des espaces particuliers pour eux, donc, c'est-à-dire les enfants, l'école, pour la reproduction de leur future force de travail. Tandis que ben, voilà, tous ceux qui ne pourront plus être productifs en forme pour travailler, etc., vont commencer à être perçus de plus en plus comme une charge, donc un problème social. Et donc, avec ces processus-là, années 60, c'est la première réglementation que l'État il va faire pour les hôpitaux, les soupices et des maisons de repos. Et il va quand même mettre de l'argent là-dedans, donc ça ne va pas être un problème. Les problèmes, ils vont être posés années 70, avec vraiment la crise qui s'installe à ce moment-là, et on va faire d'austérité, on va commencer avec tous ces discours de dire « Oh là là, ben, les personnes âgées coûtent trop cher à la société. » D'ailleurs, même les personnes qui sont à l'hôpital, les malades, etc., ça coûte trop cher. Et en plus, années 2000, on commence à dire « Ben voilà, c'est une opportunité pour les entreprises qui vont ouvrir tous les discours de la Silver économie en disant c'est magnifique, c'est aussi une opportunité pour les pays et pour la croissance économique du pays. Autant que ce soit pour la notion de dépendance comme pour cette notion de la retraite, donc c'est-à-dire quelque part cette catégorie, la vieillesse, va être définie par les travail et par l'état de dépendance qu'on va souvent confondre avec l'autonomie.
Christophe Hervois.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Senior Agency, une agence de communication axée sur la silver economy. Vous avez aussi créé, il y a peu, la communauté Happy Grands-Parents.
Exactement.
Yvan Van de Cloot.
Bonjour.
Vous êtes économiste en chef de l'Institut Itinera, professeur d'économie à l'Antwerp Management School. Vous avez collaboré à la rédaction du livre L'or gris.
C'est ça.
L'or gris. Wow. Ah, on va encore plus au-delà du jeu de mots, quoi.
Par exemple, chez Orpea, ils ont deux indicateurs qui sont importants pour eux, le taux d'occupation. Ça serait bien de les maintenir en vie non plus, pas qu'ils meurent trop, ou en tout cas qu'on trouve toujours des nouveaux clients. Bon, ça... Et il y a une marge opérationnelle, c'est-à-dire si les maisons de repos n'arrivent pas à atteindre les objectifs donnés, ils doivent faire des économies obligatoires, ils sont remis à l'ordre, etc., etc. Et donc, c'est les logiques financières qui dominent le management et pas d'autres indicateurs auxquels on pourrait s'attendre dans une maison de repos, le bien-être, enfin voilà.
Home 1. Établissement identifié par ceux qu'il n'a pas, ne fait pas, ne donne pas aux vieilles et aux vieux qui y vivent. Son nom provient des plaintes à son encontre. Exemple. Pas parlé aujourd'hui, m'a pas laissé flirter, m'a interdit de veiller jusqu'à minuit, m'a réveillé avant midi, m'a pas mis de sel sur mes frites, m'a pas visité depuis 3 mois, m'a encore mis en pampers, m'a fait écouter de la musette. M'a confisqué mon rollator. M'a oublié dans un coin. M'a pas laissé le choix. M'a pas laissé le choix. M'a pas laissé le choix. 2. Plus vraiment chez soi.
J'habite dans la maison actuelle depuis plus de 60 ans. Et je ne me vois pas partir. Malheureusement, mon indépendance dépendra de mon état de santé. Mais j'aimerais rester jusqu'à la fin de ma vie dans la maison. Et bien sûr, il y a des homes où on a l'occasion de prendre un petit appartement. Mais à ce moment-là, c'est une question de paiement. Et là, je crois qu'il y a des limites.
Je ne suis pas sûr que les résidents voient cette manne financière et ce bouillonnement financier qui est derrière. Je pense, j'entends bien que voilà, Bob veut rester indépendant. Si on le laisse faire, il pourrait rester indépendant dans un home, mais on ne le laissera pas faire. Parce que l'aide-soignante viendra ou l'infirmière viendra et prendra le pouvoir et dira tout ce qui est bien pour Bob ou pour quelqu'un d'autre. Et du coup, il perd totalement son indépendance.
Oui, on le mettra en pampers, voilà. Même s'il sait aller à la toilette. Oui. On le met en pampers pour qu'il n'aille pas. Oui, comme ça, c'est du temps gagné parce qu'elles n'ont pas assez du temps pour tout le monde.
Il ne faut pas condamner trop parce que c'est le temps que...
Non, mais... Ça, moi, c'est du vécu.
Moi, j'en visite quelques-uns je sais que certains on les a laissés sur des fauteuils roulants alors qu'ils ne sont pas gravataires, justement.
Oui. Exactement.
Parce qu'il y a, c'est qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois, finalement, dans un fauteuil roulant.
Venez, je vais vous donner le bain alors qu'il sait se laver. Donc, tu enlèves l'indépendance à la personne.
Oui.
Je vais te laver. Allez, je vais te mettre en pampère. Je vais faire ci, je vais faire là. Alors finalement, tu perds toute ton autonomie et tu viens beaucoup plus malade et tu ne dures pas longtemps. Je t'assure que c'est vrai.
On lave une personne de la même façon qu'on lave une voiture. On donne les temps nécessaires pour ça, de la même façon. Et ce qui a quand même une logique, et ça montre très fortement la logique de cette organisation de travail qui vient du monde de l'industrie. Réduire les dépenses et augmenter les profits, les rendements. Et on va faire comme dans les travaux productifs, donc c'est-à-dire pour pouvoir standardiser les tâches, on va morceler, on va diviser d'autant plus les tâches. Donc c'est-à-dire on ne réalise plus en soin, on réalise une tâche. Et cela, c'est autant dans le privé commercial que dans l'associatif et que dans le public.
Grabataire, étymologiquement, désigne une personne délaissée sur un grabat, un lit inconfortable et sale. Synonyme, squatteur de pieux, matelabitant, pionnier de l'horizontalité, vivant dans le sens du ciel, resto plumard, scruteur de plafond.
Alors, grabataire, adjectif, est celui qui refuse de se lever car il se sent tellement bien dans son lit ou son divan, avec tout à portée de main. Demain, entre guillemets, bienheureux est celui qui est grabataire. A donné le verbe grabatisser, qui veut dire tisser des liens en invitant les gens dans son divan.
Bien le Larousse.
Ouais. C'est Alexandre le bienheureux.
Oui, c'est ça.
Vraiment ça. Il ressemble voilà.
Alors, moi aussi, je n'ai pas été très inspirée. Hein, mais... Grabataire. Personne réjouie qui, même si ses deux pieds ne sont plus toujours ancrés sur terre, ne compte pas pour autant se laisser mettre sous terre.
Quand je parle d'achisme, on me dit c'est quoi ça? Ben, c'est la discrimination la plus universelle du monde. En fait, voilà. Mais qui a à voir, oui, mais pas seulement par rapport à la question de la dépendance et de la santé, mais tout, la mobilité, les logements, les loisirs, etc., etc. Parce que les loisirs, ben oui, lorsqu'on les considère comme une question d'opportunité pour les capitaux financiers, mais comme disait l'économiste tout à l'heure, là on va dire, oui, on va développer des loisirs et donc un tourisme, etc., pour une certaine catégorie de personnes qui se trouvent à la retraite. Mais sinon, c'est-à-dire pour ceux qui ont des moyens pour les payer. Puisque c'est ça, en fait, les retraités, comme ils ne servent plus à rien, la société. Mais soit ils ont les moyens et donc ils payent, il faut qu'ils payent, soit c'est une charge, on ne s'occupe pas. C'est-à-dire, il y a des investissements publics hein, pour la jeunesse, mais par contre, pour nous, il n'y a rien, et c'est ce qu'il y a, est complètement en décalage avec notre génération. Nous, on vient du rock'n'roll, quoi. Et on nous met dans des dimanches, aller danser les valses dans un endroit, ben, ça ne correspond pas du tout à ce que, on a envie.
Ici, on se connaît beaucoup. Peut-être on peut s'entendre pour dire « Ah, voilà, on a une idée, on peut prendre une grande maison, chacun sa chambre, on a une cuisine que tout le monde peut être ensemble. Un repas, peut-être un jour, une qui n'est pas bien et l'autre qui dit « Ben, je vais monter, voir qu'est-ce qui se passe. » S'entraider, moi je trouve. Au lieu de prendre un étudiant qu'on ne connaît pas du tout, l'amitié, c'est beaucoup plus fort.
Pour moi, ça serait bien de trouver des amis jeunes ou pas jeunes, qui soient mes amis, ou de la famille, quoi. Et trouver une maison pour vivre ensemble, et chacun, si on a besoin de médecins ou des trucs comme ça, qui vient régulièrement. Le reste, c'est des rêves, quoi. Je ne sais pas que la santé va me donner, parce que jusqu'à maintenant, je peux m'en servir moi-même. Mais ce n'est pas demain.
Il est certain que les hommes privés sont des entreprises commerciales. Et avec toutes les malversations que l'on entend maintenant, c'est pas fort réjouissant.
Alors là, c'est la fin des haricots.
Mais oui, si on perd son autonomie.
La maison de repos, c'est la fin des haricots.
Ah oui, c'est le Mouroir. Hein.
C'est l'avant-dernière résidence.
Ça va le Mouroir. Hein. Ben oui, ça c'est.
La femme, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il ne faut pas oublier ça, elle a été pendant plus de 100 ans mise sous la tutelle de l'homme, donc considérée comme un mineur, c'est-à-dire comme une personne qui n'avait pas d'autonomie, qui n'était pas capable d'autodétermination. La plupart des temps, c'est des couples où l'homme, du moment où il devient de plus en plus dépendant, mais il va profiter de sa femme, de l'accompagnement, etc. Et une fois que lui, il est mort, la femme, elle va se trouver dans cet état de dépendance qui va être considérée dans nos sociétés, d'autant plus qu'on les cherche, puisque comme il n'y a personne pour s'occuper d'elle, il aura soit la famille qui doit s'occuper des enfants, etc., d'aller au travail tous les jours, ou bien bah, une charge pour la sécurité sociale, puisqu'on a plus de temps partiel, on a des plus bas salaires et donc on a des plus bas pensions et retraites aussi. Et la plupart des femmes qui se trouvent aujourd'hui, quelque part, dans des maisons de retraite ou bien voilà, qui ont plus de 80 ans, c'est des femmes qui, en fait, elles ont toujours été traitées comme des personnes qui n'avaient pas droit à l'autodétermination. Ben, il s'agit quand même de lois, il s'agit de réglementations, mais qui vont avoir des impacts sur les conditions matérielles, symboliques et relationnelles, et vice-versa, jusqu'à nos jours.
Et je pense que c'est un peu notre rôle de montrer que c'est de la maltraitance structurelle et pas juste le fait dirigeant vers eux d'une grande multinationale, quoi. Qui le sont pour le coup, mais il y en a d'autres, quoi. Pour travailler depuis un moment sur les questions de santé, etc., on a peu de contre-proposition. On est un peu dans la défense d'un statu quo qui n'est plus. Et on a peine à répondre. Maintenant, il faut penser une santé qui est en lien avec la question du changement climatique, le vieillissement malgré tout, etc. Il faut... Donc là, il y a des éléments qu'on peut reprendre du passé, comme la prévention, toutes ces choses-là, la santé communautaire, des choses qui ont montré leur efficacité, leur faible coût, qui est un peu ici à travers les maisons médicales, etc. C'est une idée de répondre d'une manière communautaire, de connaître les besoins des communautés en santé pour les prévenir et les anticiper. Je pense travailler là-dessus et avoir des mots un peu plus percutants, ce ne serait pas inutile, quoi.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ici le collectif RATA, Rage Against the Racisme. Nous avons pris possession de tous les médias du monde. Nous allons vous diffuser maintenant un message afin de vous expliquer nos revendications. À vous le studio.
Partout dans le monde, nous manifesterons notre colère jusqu'à ce qu'on respecte nos droits et qu'on nous laisse vivre dignement comme on l'entend.
Du respect et de l'argent.
On veut de l'amour, de l'argent et du respect.
C'était le 4e épisode du glossaire de la finance et de la sorcellerie, réalisé collectivement par le laboratoire sauvage des sorcellers la finance. Avec Marie-Claire, Panchita, Leslie, Baby, Bob, Odette, Rosalba, Noureddine, Eve et Stéphanie du Diversity, le club de seniors de la commune de Forêt.
Merci à Zine TV, le gang des vieux en colère, Amour et Sagesse. Et à ACDF et Gamel pour la musique.
Avec le soutien du FACR, le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec l'aide de la Fondation Mycelium et en coproduction avec l'ACSR, dont on remercie toute l'équipe.
Comment est-ce qu'on pourrait appeler les vieilles personnes ? Une manière qui est chouette de parler des vieilles personnes.
On pourrait les appeler d'une façon qui les rend plus supérieures, mais je sais pas trop comment les appeler.
C'est déjà très très bien.
Parce que je vois beaucoup de gens qui maltraitent les personnes âgées, mais je me dis d'un sens c'est un peu débile parce que nous-mêmes plus tard on sera âgés, donc c'est comme si on se maltraitait nous. Donc je me disais c'est un peu mal.